Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. On va parler de Sonic et de Britney Spears. Oui, notre info média, un documentaire exceptionnel sur MBS, alias Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est lui qui a autorisé les femmes de son pays à conduire, mais il serait également le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Et selon l'ONU, c'est lui qui a piraté le portable de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ce qui lui a coûté son divorce à 38 milliards de dollars. Tout à fait autre chose, saviez-vous que 95% des touristes se rendent sur seulement 5% de la planète et il y a 1,5 milliard de touristes, d'où le tourisme de masse, des embouteillages en tongs et en shorts. Question, faut-il interdire le tourisme? C'est la question que pose Martin Veil, le reporter, qui propose une enquête ce soir sur TMC. Enfin, la comédienne Frédérique Bell, elle est à l'affiche de la série H24 sur TF1 et du film Du coup 3, c'est l'une des plus allumées du cinéma français. Pourquoi je dis ça? C'est la plus allumée. Hélène Manarino va nous faire son portrait inattendu et Frédérique Bell se dit elle-même médium. Je sens qu'on va décoller, elles sont perchées. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Justine Nolman.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce son de basse annonce le journal des médias. Bonjour Benjamin Delsol.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est avec vous d'abord au menu ce matin.
Une émission qui donne la parole à ceux qui n'entendent pas, Mireille Dumas qui repasse derrière la caméra et Michael Youn qui revient réveiller nos voisins sur M6.
Mais on commence d'abord par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Et ils ont regardé France 3 et c'est une grosse surprise hier soir avec l'émission Secret d'Histoire qui s'est classée en tête des audiences.
Incroyable.
Stéphane Bern consacrait son émission au prince Philippe, oui.
Ouais, ce qui avait été très étonnant, c'est que cette émission était sur la 2, elle est passée sur la 3.
Exactement.
Et la greffe a pris. Alors.
Et elle s'installe bien sur France 3 puisqu'elle a été suivie par plus de 3 millions de téléspectateurs, soit 13,9% de part de marché.
Bon, 13, c'est pas foufou hein, non plus.
À la deuxième place, c'est TF1 et la série H24, la série hospitalière avec Anne Parillo et Frédérique Bell, qui a réuni 2 745 000 téléspectateurs pour 12,3% de part d'audience.
Frédérique Bell qui sera avec nous
tout à l'heure.
Ouais.
Et M6 qui arrive à la troisième place avec Marié au premier regard, 2 715 000 téléspectateurs et 13,6% de part d'audience. Un chiffre en légère baisse aussi par rapport à la semaine dernière.
Alors maintenant, le journal des médias, alors que se tient ce matin à l'Élysée la conférence nationale du handicap initiée par Emmanuel Macron, vous nous parlez d'une émission de télé qui change justement le regard sur le handicap.
Oui, elle s'appelle L'œil et la main. C'est la seule émission en France consacrée au monde des sourds, la seule émission bilingue à la fois en français et en langue des signes. Elle est diffusée sur France 5, 3 lundis par mois à 10h10. Alors c'est une case un peu confidentielle pour cette émission de documentaire qui vient tout juste de fêter ses 25 ans.
Et l'émission est consacrée aux sourds et aux malentendants ?
Elle est destinée à eux, mais pas uniquement. Comme l'explique Laurent Vallot, il est directeur de collection de l'émission depuis près de 10 ans. Il est né sourd, mais il veut se faire entendre. Et ses réponses, c'est son interprète Jérôme Maury qui nous les retranscrit au micro de Louise Bernard.
Souvent les personnes se disent mais le monde des sourds on ne le voit pas, il est invisible. Donc justement l'émission L'œil et la main qui diffuse des films documentaires, c'est l'occasion de voir ce monde invisible, de permettre au public d'avoir une visibilité sur les sourds. Alors les sourds c'est ils n'entendent pas, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le son. Bon, il y a juste le son qui manque. C'est intéressant à la télévision publique de montrer les minorités. Si on ne les montre pas, on ne les voit plus, donc elles n'existent plus.
Et cette semaine, L'œil et la main insiste une nouvelle fois sur le fait que le langage des signes est une vraie langue qui s'apprend. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas un code. Laurent Vallot nous présente la seule école parisienne bilingue à laquelle il consacre un reportage cette semaine, une école où l'enseignement est totalement en langue des signes.
C'est trop mignon de voir ces petits qui ont envie d'apprendre en langue des signes, qui sont dans les écoles avec les entendants, qui ont accès finalement aux mêmes cours. Parce que quand c'est oralement, c'est toujours à peu près, on a du mal à suivre, on comprend à moitié, etc. Alors que quand c'est en langue des signes, on a accès complètement au savoir.
Voilà un très beau sujet à voir dans L'œil et la main qui sera rediffusé ce samedi vers 23h30 sur France 5 et qui est aussi visible tout le temps en replay sur le site de France.tv. Et vous pouvez également retrouver une interview de Laurent Vallot en langue des signes sur le site d'Europe1.fr et sur tous nos réseaux sociaux.
Et justement, Europe 1 se mobilise également dans le cadre de cette journée pour montrer que le regard sur le handicap doit changer.
Oui, depuis ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard et tout au long de la journée, Europe 1 propose un dispositif spécial pour sensibiliser au handicap. Il y aura des témoignages de personnes en situation de handicap, il y aura des aidants et ceux qui œuvrent à davantage d'inclusion. Le prochain rendez-vous, c'est dès midi dans La France Bouge avec Raphaël Duchemin. Elle reçoit deux entrepreneurs dont les handicaps les ont incités à se lancer et une humoriste qui propose un spectacle sur la sclérose en plaques.
Oh, dis donc, il faut le faire, ça, bravo.
Ouais, ouais, très beau spectacle pour le coup. Et à 14h, Christophe Ondelat nous raconte l'histoire de Philippe Croizon qui, amputé des quatre membres, est connu notamment pour avoir traversé la Manche à la nage.
Et il est connu également pour faire des vannes absolument somptueuses. Vraiment, on le salue, Philippe Croizon. On poursuit avec Mireille Dumas qui s'intéresse également aux invisibles.
Oui, ces invisibles-là, on les voit sans y prêter vraiment attention. Dans les rues de Paris et dans la France entière, ce sont les éboueurs à qui Mireille Dumas consacre ce soir un documentaire qui s'appelle « Des poubelles et des hommes ».
Mireille Dumas passe derrière la caméra.
Oui, c'est une première pour elle depuis 1996 où elle avait suivi des graines de top modèle. Alors 24 ans après, elle retourne sur le terrain. Celle qui a fait tomber les masques à la télé va rencontrer des gens. Elle a choisi de s'intéresser donc cette fois à la brigade fonctionnelle de Paris, des hommes qui nettoient les rues, une unité d'élite méconnue. Alors que voulait-elle montrer ? Elle répond à notre journaliste Alexandre Omar.
L'intérêt de ce documentaire, c'était d'éclairer ces hommes et ces femmes, puisque maintenant il y a de plus en plus de femmes qui arrivent de l'ombre, les mettre en lumière. Ils se sentent invisibles, on ne les voit pas. Justement, on ne les voit pas et ils apparaissent à nos yeux quand ils sont en train de collecter les poubelles et qu'on s'énerve, on klaxonne. Et à ce moment-là, ils nous dérangent et on leur dit tout et n'importe quoi alors qu'ils font leur métier. Un métier essentiel à la société. Moi, ce que je voulais, justement, pour les rendre visibles, je voulais absolument qu'ils soient incarnés.
Et pour les rendre visibles, on découvre le quotidien de Jérôme, Jean-Paul, Aïcha, Vincent et les autres. Alors, ils ne sont pas simplement des hommes et des femmes aussi maintenant en vert qui balaient dans les rues, mais ils remettent en état la ville après les manifestations. Ils décapent les graffitis sur le périph' au milieu de la nuit. Ils vont dans les squats ou les camps de migrants. Et ils nettoient aussi les marchés où le gâchis alimentaire côtoie malheureusement la pauvreté.
Il y a beaucoup de gens qui vont être reconnaissants en disant « voilà, c'est bien, ah bah c'est propre, vous faites votre boulot convenablement, voilà ». Mais dans le quartier où je travaillais avant, j'avais souvent des réflexions, j'avais des personnes qui me voyaient arriver et jetaient leur mégot par terre en me disant « bah ramasse, t'es là pour ça ».
Comme un affront.
J'ai déjà une personne qui m'a jeté un mégot devant moi, elle m'a dit « je te paye ». Donc ramasse, fais ton boulot, fais néant.
Voilà, Mireille Dumas montre dans ce film ce qu'elle fait peut-être de mieux, donner la parole aux invisibles, saisir le réel, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, toujours avec le respect qui a fait sa marque de fabrique depuis toutes ces années. Et invisible, elle l'est aussi dans ce documentaire où l'on entend juste sa voix, et ça lui va très bien comme ça.
Je suis très très épanouie aujourd'hui dans ce métier de réalisatrice documentaire de terrain, retournée sur le terrain avec des anonymes. J'ai commencé mon métier de cette manière-là et j'avais toujours dit qu'après l'antenne, j'y retournerais. Je m'épanouis parce que je peux exercer tous mes métiers, mais qui pour moi n'en font qu'un. Réalisatrice, journaliste, l'enquête, l'interview, évidemment, donner la parole à des anonymes, c'est tout ce que j'aime aussi. C'est pour moi important de faire circuler cette parole et puis produire. Donc tout va très très bien.
Voilà, tout va très bien pour Mireille Dumas et des ordures et des hommes, réalisé par Mireille Dumas avec Damien Vercamer, produit par Mireille Dumas, raconté par Mireille Dumas. C'est ce soir dans la case infrarouge à 23h10 sur France 2.
Et Damien Vercamer, très bon journaliste, réalisateur. Et pour terminer ce journal, vous nous parlez d'une émission qui fait son grand retour.
Allez, Philippe, Justine, on va jouer. Saurez-vous reconnaître cette musique ?
Bah vas-y, bah évidemment.
Pas passer chaque jour, ah, chaque jour un petit peu plus que ça, ouais, plus simple. Les Bratislava Boys, oui, groupe d'anthologie légèrement parodique amené par Mickaël Youn et ses deux acolytes Benjamin Morgan et Vincent Dezania. Le trio du Morning Live, la matinale qui a réveillé les téléspectateurs d'M6 et leurs voisins au début des années 2000. Une émission devenue culte en quelques mois.
Et donc ils reviennent.
Ils vont reprendre du service sur M6, oui. La chaîne prévient que Mickaël Youn est de retour et il ne revient pas seul. 17 ans plus tard, non plus le matin, mais le soir. M6 annonce en effet la diffusion dans les prochaines semaines de deux spéciales de Morning Night, ce qui donc en français veut dire matin-nuit. Il s'agira d'un late show comme toutes les chaînes rêvent d'en faire. L'émission a été enregistrée la semaine dernière dans les studios de la Plaine de Saint-Denis. Rien n'a filtré depuis, si ce n'est quelques noms d'invités. Sont annoncés au casting Jamel Debbouze, Arnaud Ducré, François-Xavier Demaison, Claudia Tagbo ou encore Big Flo et Oli.
Merci beaucoup Benjamin, à demain.
À demain.
Ce soir sur France 5, Le Monde d'en face consacre sa soirée à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, avec un documentaire qui dresse son portrait et son parcours. Le réalisateur sera avec vous, Philippe, dans un instant pour tout nous expliquer sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour.
MBS, trois lettres pour un royaume. Ses initiales, ce sont celles de Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, qui se retrouve à seulement 34 ans à la tête de cette puissance pétrolière. Il est à la fois allié de Trump et interlocuteur incontournable au Moyen-Orient. Et c'est également une personnalité ambiguë. On le dit réformiste, on le découvre également tyrannique, le mot est faible. Il serait le commanditaire de l'assassinat barbare, faut-il le préciser, découpé en morceaux, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il se dit aussi que c'est lui, MBS, qui aurait piraté le portable de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, et qui lui a coûté à Jeff Bezos son divorce à 38 milliards de dollars, excusez du peu. MBS, Prince d'Arabie, c'est réalisé par Antoine Bidkin. Ça passe ce soir à 20h50 dans Le Monde en Face sur France 5. Bonjour Antoine Bidkin.
Bonjour.
Tout d'abord, première question, pourquoi vous êtes intéressé à MBS? Quel a été l'élément déclencheur, si tant est qu'il y en ait un?
Alors j'ai déjà traité le cas d'un certain nombre de despotes ou d'autocrates, récemment Poutine, avant Bachar, et je dois dire que ce qui m'a intéressé là, c'est que c'était la première fois que je m'intéressais à un autocrate qui n'était pas dans un camp opposé ou radicalement opposé au nôtre ou à celui de l'Occident. Ce qui m'intéressait chez MBS, c'était qu'il était à la fois ces personnalités autoritaires qui m'intéressent depuis plusieurs années, et en même temps, il est un allié. MBS, c'est ce que d'ailleurs le film dit, c'est un peu nous. Et ça m'intéressait, cette proximité. Et par ailleurs, ce qui m'avait frappé, et je crois que ça c'est effectivement le point, le moment déclencheur, c'est sa visite en Occident, et en particulier en France, où là on a vu apparaître ce jeune homme nouveau et auréolé de toutes sortes de qualificatifs plutôt laudateurs, comme celui d'être un réformiste. Mmh. Et ça m'a donné envie d'aller creuser. J'avais trouvé assez romanesque, finalement, entre guillemets, cette figure, et ça m'a donné envie d'en savoir plus.
Le personnage est sulfureux, romanesque, vous l'avez dit. Vous avez eu accès à de nombreux documents d'archives, vous avez interrogé des témoins de premier plan, des opposants au régime également, des diplomates, des politiques. Ça a été facile à mener comme enquête ou comme d'habitude, ou est-ce que c'est très difficile? Et on vous a mis, au contraire, des bâtons dans les roues.
Ça a été très difficile. Ça a été beaucoup plus difficile que d'habitude. Je citais Bachar ou Poutine, c'était beaucoup plus
simple. C'est pas vrai, pourquoi?
Pour une raison qui était la difficulté à faire témoigner des protagonistes. Alors ce sont des protagonistes autour de MBS, ce sont des diplomates, comme vous l'avez dit, des conseillers de président du côté américain et français, en gros. Et ça a été extrêmement difficile, je pense, parce que les intérêts des Occidentaux avec l'Arabie Saoudite sont intenses, sont importants, parce que la personnalité de MBS déroute. C'est beaucoup plus simple de parler de quelque chose quand vous savez exactement de quoi on parle. Là, cette personnalité déroute. Je pense qu'elle intimide également. Je pense qu'un certain nombre de gens ont peur de dire des choses qui pourraient ne pas plaire. Et donc, ça a été extrêmement difficile. Sans parler du côté saoudien, où là, autant lorsque je veux rencontrer un conseiller ou une conseillère de Bachar el-Assad, ça finit par se faire parce qu'ils ont intérêt à parler. Et puis, ils savent comment parler. Le pouvoir saoudien est une boîte noire totalement centralisée, où seule la tête de MBS dépasse, en gros. Et donc, ça a été beaucoup plus difficile que jamais, à ma grande surprise. Je pensais que ça le serait pas.
Vous commencez par raconter l'ascension de MBS, la manière dont il arrive au sommet, parce qu'au départ, c'est pas lui qui était censé être le prince héritier. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il a été nommé par son père, qui est toujours roi d'Arabie Saoudite, même si la réalité du pouvoir est exercée par MBS. Donc c'est d'abord cette nomination-là. Mais ce que je raconte dans le film, ce que je décris par le menu et dans la coulisse, c'est la manière dont MBS a su forcer le destin pour pousser son père à le nommer, je pense, plus tôt que prévu. J'ai plutôt tendance à penser, même si encore une fois, on n'en sait rien, ce pouvoir est totalement mystérieux, comme je le disais, mais je pense que son père avait l'intention de le nommer un jour prince héritier. Il a forcé le dessein, il s'est notamment appuyé sur Trump. Je pense que c'est ça le point central. Il a su s'appuyer sur Trump. Et évidemment, la relation entre ces deux hommes, on le comprend assez bien, est assez forte, parce que d'une certaine manière, ils ne sont pas sans point commun.
Alors, en 2016, MBS était déjà fait remarquer pendant une rencontre avec Barack Obama. Écoutez le récit que vous récupérez de Joseph Westphal, l'ambassadeur des États-Unis entre 2014 et 2017, et Robert Mallet, ancien conseiller de Barack Obama.
Le président s'est dit préoccupé par les peines infligées à certaines personnes pour un simple tweet. 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, 16 ans de prison. Il a cité tous ces cas. Le roi a apporté une réponse. Et puis, MBS s'est levé et a pris la parole, ce qui était contraire aux usages.
Cinglant, le jeune ministre va jusqu'à proposer au président américain un cours de droit saoudien.
C'est notre système, nous avons nos lois, nos juges.
ça a été un moment frappant. Peut-être que je surinterprète, mais ce qui était clair, c'est qu'entre lui et son père, le boss, du moins celui qui avait la capacité et le désir de faire front, c'était Mohamed Ben Salman.
Et ça s'est pas arrangé avec le temps.
Non.
Vous restez avec nous, on a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. On parlait de Khashoggi, on parlait de Jeff Bezos, on verra si on a le temps d'en parler. Mille choses, restez avec nous s'il vous plaît.
L'infomédia du jour continue dans quelques minutes avec Antoine Vidkin, le réalisateur du documentaire MBS, Le Prince d'Arabie, que vous allez pouvoir voir ce soir dans Le Monde d'en face sur France 5 dès 20h50. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe Vandel, Antoine Vidkin, le réalisateur de MBS, Le Prince d'Arabie, qui sera diffusé ce soir sur France 5 pour une soirée consacrée au prince héritier, Mohamed Ben Salman, qui a tout juste 34 ans, est à la tête de son pays. Alors qui est-il vraiment? Quelles sont ses intentions? Eh bien, c'est ce que le documentaire nous permet de mieux comprendre.
Dans le documentaire, vous rappelez, Antoine Vidkin, que MBS est un jeune prince qui fait souffler un vent de modernité, c'est comme ça qu'on dit en Arabie Saoudite, du moins en apparence.
En quelques mois, il supprime la police des mœurs, la Moutawa, accorde aux femmes le droit de conduire et même de ne pas porter le voile. Enfin, il autorise les concerts publics et les cinémas, jusqu'alors interdits. Au pays du wahhabisme, il fait vivre une révolution.
C'est une vraie révolution, c'est un vrai progressisme ou c'est surtout pour se forger une belle image à l'étranger?
C'est tout ça en même temps, mais c'est une vraie révolution. La vie a changé en Arabie Saoudite de manière assez spectaculaire. Effectivement, l'extrait le raconte. Maintenant, ce sont dans la rue des femmes qui ne sont pas obligées de porter le voile. Ce sont des concerts de techno. Il paraît que la Movida est pas mal. Et ouais. Moi qui suis plutôt amateur de musique électronique, Riyad est en train de devenir une destination peut-être intéressante. Donc c'est une vraie révolution, c'est une vraie modernisation. Et dans le même temps, le régime n'a jamais été aussi répressif.
Et en même temps, cette révolution, il ne l'applique pas tout à fait à lui-même, ni même à sa famille. Il a permis aux femmes de conduire, mais il n'a toujours pas permis à la sienne de se montrer. C'est ce que raconte Ali Ahmed, c'est un opposant saoudien en exil, et Bernard Haeckel, il est professeur à l'université américaine de Princeton.
Où est sa femme à lui? Pourquoi se cache-t-elle? Il n'y a aucune photo d'elle. C'est un fantôme. Il ne laisse même pas à sa femme ou à sa sœur le simple droit d'être vu. Chaque fois que j'ai parlé à MBS, j'ai senti que l'idéologie n'était pas importante. La survie, le pouvoir, adopter des mesures pragmatiques permettant la survie de la dynastie, tout cela est le plus important.
Mesures pragmatiques, à quoi on s'expose quand on n'est pas d'accord avec lui?
On s'expose à la prison, voire pire.
Sous quel motif? Discrétion du prince ou est-ce qu'il y a quand même des textes de loi?
Discrétion du prince, alors évidemment c'est tout habillé de textes de loi, mais c'est quand même assez... L'embastillage était quelque chose d'assez courant.
Il est accusé d'avoir fait kidnapper le Premier ministre libanais Saad Hariri, il est engagé dans une guerre sanglante au Yémen, il veut contrer l'Iran, il est belliqueux en même temps.
Oui, il est belliqueux, il veut changer les lignes. L'Arabie Saoudite a été dirigée pendant très longtemps par des vieillards kakochim, et lui prend le taureau par les cornes. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, on l'a évoqué, je pense que c'est effectivement la volonté de réforme dans ce pays. Et le pire, effectivement, c'est la répression, voire c'est par une certaine impulsivité ou certains emportements, un certain nombre de décisions, par Khashoggi, on en parlera peut-être plus tard, ou la guerre au Yémen. Donc effectivement, ce prince a deux visages. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans ce film. J'ai essayé de comprendre ces deux visages. Peut-être que ce qui explique le fait qu'il ait deux visages, outre les dossiers qu'il a à gérer, qui sont, je pense, très compliqué. Je pense que lui et sa famille, les Saouds, sont dos au mur. Je pense que l'inexpérience joue évidemment un rôle. Il est jeune.
À la fin du documentaire, puisque vous en parlez, vous évoquez l'assassinat barbare du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pardon, je le prononce à l'occidental. Selon vos informations, quel rôle MBS a-t-il joué dans cette affaire?
Alors, ce ne sont pas mes informations, ce sont celles des États-Unis, en particulier de la CIA, qui est assez affirmative pour dire que MBS était au minimum au courant et on peut raisonnablement penser qu'il a laissé faire ou qu'il a donné l'ordre. On n'en sait pas plus, on n'a pas le smoking gun, mais je crois que c'est un sénateur américain, il me semble républicain d'ailleurs, qui a dit devant un tribunal, il serait condamné en 5 minutes.
Il se dit également que c'est lui qui a piraté le portable de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Je le rappelle, c'est l'homme le plus riche du monde. Des photos compromettantes qui lui ont coûté son divorce à 38 milliards de dollars. Malheureusement, cette affaire est arrivée après que vous avez fini de tourner votre documentaire. Vous en pensez quoi?
Alors, on revient à Khashoggi, c'est intéressant parce que finalement, MBS reposait à Bezos, reprochait à Bezos d'être propriétaire du Washington Post, le journal qui employait Jamal Khashoggi, donc cet opposant qui était devenu la bête noire de MBS. Et la bête noire, si vous voulez, pour des raisons qui sont finalement assez peu rationnelles, parce que Khashoggi ne menaçait pas MBS. Et là encore, on voit ce que c'est que cette personnalité toute puissante qui, parce qu'elle ne supportait plus ou pas visiblement Khashoggi, a peut-être dans un mouvement d'emportement, on peut imaginer ce qu'on veut, demander à ce qu'on le supprime. Et donc Bezos, c'est exactement la même chose. Et Bezos était le propriétaire. MBS est très versé dans la technologie. Lui-même est un geek. Il a toutes sortes d'iPads, d'iPhones et tout ce que vous voulez. Et les Saoudiens ne sont pas manchots lorsqu'il s'agit d'effectuer des piratages informatiques. Et donc visiblement, j'ai lu le rapport qui est assez précis, visiblement l'Arabie Saoudite est impliquée.
Mais là où c'est incroyable, c'est que c'est pas juste un piratage à distance, c'est qu'ils étaient amis. Donc c'est là où c'est un personnage comme Janus Bifron. C'est qu'à la fois c'est un méchant et à la fois c'est un gentil. Ils étaient potes pour dire les choses avec Bezos. Et ils s'envoyaient des messages sur WhatsApp ou sur Dieu sait quelle messagerie, c'est ça?
C'est ça. Bon, alors c'est un univers dans lequel on n'est jamais vraiment amis. Et je pense qu'en particulier au Moyen-Orient, effectivement, la notion d'ami-ennemi est très floue.
Ouais.
Comme vous le savez certainement.
Oui, mais enfin, moi j'ai pas le portable de Jeff Bezos et vous non plus, j'imagine.
Je l'ai pas, non.
Voilà, on s'envoie pas des messages. Alors il faut dire, il y a quand même un background. L'Arabie Saoudite a d'immenses réserves pétrolières. 80% des revenus du royaume proviennent du pétrole, mais les cours du brut ont été divisés par deux en quelques années. Et on découvre dans votre documentaire que 12% de la population, alors qu'on pensait que tout le monde était milliardaire là-bas ou presque, vit sous le seuil de pauvreté.
Vous seriez choqués. Rien qu'à Riyad, oubliez le reste du pays. Nous n'avons pas de ligne de bus. Nous n'avons pas encore de métro. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'égout. L'eau se déverse dans un trou que chacun doit creuser. Chaque mois, quelqu'un vide les eaux usées et les déverse ailleurs. C'est ainsi, alors que nous exportons du pétrole depuis 80 ans.
On dirait un pays riche qui n'a pas d'argent. Vous voulez dire quelque chose, Antoine Vidkin?
Oui, je pense que l'Arabie Saoudite est dos au mur et que si MBS et le leadership saoudien ne parvient pas à moderniser l'économie saoudienne, je pense que dans quelques années, décennies peut-être, je pense qu'ils perdront le pouvoir. Donc effectivement, ils sont face à des enjeux absolument cruciaux.
Est-ce que vous lui avez envoyé, montré votre film? Est-ce qu'il l'a vu, MBS, ce film?
Alors, je ne l'ai pas envoyé, mais je sais qu'il l'a vu.
Ah bon? Comment? Il a piraté votre téléphone?
Il ne l'a pas piraté, je sais qu'il l'a vu. Et je sais, c'est intéressant, je sais qu'il l'a vu, je sais qu'il l'a vu en entier. Je sais qu'il l'a vu très vite. Ce qui témoigne une chose tout à fait représentative du personnage, je pense, qui est qu'il est extrêmement intéressé à ce qu'on dit de lui à l'extérieur. Et qu'il a sans doute un ego assez développé. Donc effectivement, il l'a vu. D'après ce que j'ai compris, il a modérément aimé le film. Et en particulier, ce sont moins les passages les plus politiques qu'il n'a pas aimés et peut-être un peu plus les passages un peu plus personnels.
Merci beaucoup Antoine Vidkin d'avoir été avec nous. Je rappelle votre documentaire MBS Prince d'Arabie, c'est à voir ce soir à 20h50 dans Le Monde en Face sur France 5.
Restez avec nous, Culture Média continue avec votre prochain invité Philippe Martinveil qui va ce soir en prime sur TMC se poser la question suivante: faut-il interdire le tourisme? Il nous en dit plus dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et Philippe, il est temps d'accueillir tout de suite Martin Veil.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, le grand public vous a découvert dans les émissions d'Yann Barthès, Le Petit Journal sur Canal, qui est devenu quotidien sur TMC. Et depuis la saison dernière, vous avez votre émission à vous, des grands reportages sur TMC. Et ce soir, après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro, vous attaquez au tourisme avec cette question cash. Faut-il interdire le tourisme? C'est également le titre de la soirée, le titre du reportage. Vous donnez des chiffres édifiants. Il y a 1,5 milliard de touristes, bon, c'est le chiffre, qui se déplacent chaque année dans le monde. 95% de ces touristes se rendent sur seulement 5% de la planète. C'est de pire en pire.
Oui, oui.
C'est ça qui vous a décidé de faire ce sujet?
On est de plus en plus nombreux à voyager, ce qui est peut-être considéré comme une chance à bien des égards. Et surtout, comme vous l'expliquez, on voyage tous dans les mêmes endroits. Et c'est vrai qu'en voyant ce chiffre-là, nous, 95% des gens se rendent sur 5% de la planète, on s'est dit, il faut absolument creuser. Il faut essayer de comprendre pourquoi, est-ce que ça cause
Alors la grosse surprise, c'est que vous commencez votre reportage non pas en parlant de Venise ou de Maya Bay, la magnifique plage du film La Plage justement avec Leonardo DiCaprio. Il y a tellement de monde que maintenant elle est interdite aux touristes. Non, vous commencez par les animaux, les tigres et les éléphants. Pourquoi ce choix ?
Bah, en fait, quand on a tourné le reportage, à la base, on pensait justement commencer par Maya Bay, qu'on traite ensuite. Et en tournant cette partie sur les animaux, on s'est rendu compte que c'était absolument dingue. Ce qui se passe, en fait, l'envers du décor de ces parcs animaliers dans lesquels on a tous déjà été, est édifiant.
Moi, j'étais jamais. Je savais pas qu'il y avait des parcs avec 300 tigres. Et alors, mais c'est complètement dingue pour que les tigres, parce que ce qui est intéressant dans les tigres, c'est que ce sont des tigres, c'est qu'ils sont sauvages, non. Racontez comment ils sont nourris.
Bah, ils sont nourris, donc certains visiteurs peuvent tirer à la carabine pour faire descendre un lot. Donc ensuite, les tigres se battent pour récupérer le bout de viande. Il y en a d'autres qui peuvent, avec une canne à pêche, appâter le tigre pour qu'il se nourrisse.
Et
on a vu des choses dingues. Et tétés. Alors, il y a une attraction complètement dingue, où en gros, ils font téter des bébés tigres. Enfin, c'est les bébés tigres têtent une truie.
Ouais.
Voilà, avec un panneau explicatif.
Au milieu de porcelets.
Exactement, mais tout ça pour l'amusement des touristes. Et ceux qu'on a rencontrés à l'intérieur de ce parc-là, en tout cas, n'ont pas trouvé ça choquant.
Et le plus terrible dans la partie des animaux, c'est la manière dont sont traités les éléphants. Je ne savais pas du tout. Lorsqu'ils font des numéros à la con pour esbaudir les touristes, sont frappés avec une tige qui a une pointe métallique qui leur attaque le crâne. Comme ce système a été dénoncé par certains touristes occidentaux, les dresseurs ont maintenant ils ont trouvé un pis-aller.
Ouais. En fait, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas en fait, sur l'éléphant, l'éléphant d'Asie, c'est un des animaux les plus symboliques de l'industrie touristique, et notamment en Thaïlande. Je crois qu'il y a 40% des gens qui se rendent en Thaïlande qui disent qu'ils veulent monter sur un éléphant, ce qui s'entend tout à fait, parce que ça fait, entre guillemets, pour beaucoup de gens, un peu partie du package. Ce qu'on ne sait pas, c'est la façon dont ils sont traités, ces éléphants. Il y a la partie dressage qui est parfois très dure, avec notamment une technique qui s'appelle le pajan, où l'éléphant est enfermé dans une cage et frappé jusqu'à ce qu'il se soumette. En fait, on brise sa psyché, c'est le seul moyen de le dresser. Et ensuite, en fait, la plupart du temps, quand vous voyez des gens, ce qu'on appelle les maouds, donc les dresseurs des éléphants, ils ont un bull hook, c'est un crochet. Et en fait, ce crochet rappelle la douleur qui a été infligée à l'animal, et c'est comme ça qu'on le dirige. Et pour que les touristes soient moins choqués, effectivement, il y a une autre technique encore plus pernicieuse. On cache une épingle à l'intérieur de sa main, et en fait, on va piquer l'éléphant. Les oreilles de l'éléphant, c'est la partie la plus sensible, pour qu'il se soumette et qu'il se prête à tous les exercices les plus stupides, comme vous avez dit.
Et alors le pire, c'est le sort réservé aux éléphants après les numéros, quand il n'y a plus de touristes, racontés.
Mais c'est ça en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est de l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler, donc soit de faire des balades à dos d'éléphants, soit de participer à des shows. Et ensuite, la vie d'un éléphant, c'est être enchaîné à une chaîne qui fait la plupart du temps moins d'un mètre, et ils passent le reste de leur temps enchaînés comme ça.
Et il faut le dire, avec les pieds collés. C'est comme si nos deux pieds étaient collés avec les lacets d'une chaussure à l'autre.
Mais exactement.
Ils ne sont même pas dans un enclos.
Non.
Même les poulets de batterie sont mieux traités.
Pour retenir un éléphant, c'est un animal qui est extrêmement puissant, c'est un animal sauvage, c'est un animal qui est dangereux. Si un jour vous en croisez un dans son milieu naturel, je vous conseille vraiment pas de l'approcher, parce que c'est un animal dangereux. Le seul moyen en fait de le contenir, c'est effectivement de lui accrocher des chaînes. Et donc effectivement, nous on a filmé des scènes absolument dingues où on voit comme ça des petits éléphantaux qui se baladent comme des forçats en fait. Ils se baladent pas du coup parce qu'ils sont attachés.
Il y a encore pire, c'est que le gouvernement thaïlandais encourage ce système. Il donne des allocations à chaque dresseur dont l'éléphant est capable d'exécuter 3 numéros différents. Donc tu tapes ton éléphant jusqu'à ce qu'il apprenne les numéros. On apprend que les propriétaires de cet immense parc sont deux sœurs. Elles s'appellent les sœurs Chayert. Elles ont une troisième sœur qui est une activiste virulente qui défend les éléphants. Les trois sœurs ne se parlent plus depuis 20 ans parce qu'il y a une guerre. Et alors, on voit des éléphants qui ont des problèmes de dos, des problèmes de genoux, de stress. Il y en a même qui sont aveugles à cause des flashs dans les cirques. C'est juste complètement dingue. On se sent tous coupables. Alors, je précise que tout se passe en Thaïlande, mais quand même, c'est un peu la faute des Occidentaux.
Pour l'activiste, les touristes ont leur part de responsabilité.
Il y a encore beaucoup de gens qui croient en la culture traditionnelle. On ne peut rien pour eux. Mais les touristes devraient changer d'attitude. Je pense sincèrement que seuls les touristes peuvent faire changer les choses. Quand ils décideront qu'ils ne veulent plus participer à la cruauté animale, les gens ici, le marché du tourisme, changera aussi, forcément.
Pour Lek Chailert, c'est donc aux touristes de s'informer, de s'engager.
Elle dit « Les gens qui croient à la culture traditionnelle, on ne peut rien pour eux. » C'est-à-dire que les locaux ne sont pas assez intelligents pour comprendre. C'est encore de la faute de l'Occident.
C'est pas exactement ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, en gros, la vraie question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est la façon dont on consomme le tourisme. Et elle dit quelque chose en fait qui est assez simple, c'est que c'est le tourisme, c'est régi par l'économie de marché, c'est de l'offre et de la demande.
Ouais.
Si nous on change nos attentes en tant que touristes quand on va dans des pays, quand on veut voir des animaux sauvages, alors mathématiquement, dans quelques années, les pratiques changeront elles aussi.
Voilà, alors je vais dire, je suis un peu critique là, mais je vais vous dire, si votre reportage a l'audience qu'il mérite, il pourrait avoir le même impact que moi, je me souviens, j'avais vu d'Envoyé spécial un reportage sur les appartements raviolis qui racontait comment était fabriquée la bouffe chinoise, il n'y a pas d'autre mot, dans des appartements au deuxième étage. Je suis plus allé dans un restaurant chinois depuis avoir vu ce reportage, donc j'espère qu'il va se passer la même chose avec votre sujet. Il faut qu'on parle du drame d'Instagram, parce qu'une chose qui a détruit le tourisme, paradoxalement, ce sont les photos. Vous restez avec nous.
En 2019, plus d'un milliard de personnes ont voyagé, mais cette pratique a des conséquences sur l'environnement, le bien-être animal et le patrimoine. Martin Veil a décidé d'y consacrer une enquête ce soir sur TMC. Il est aux côtés de Philippe Vandel pour en parler dans Culture Média. Alors restez avec nous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce soir à 21h15 sur TMC, vous retrouverez Martin Veil pour un prime sur les dégâts causés par le tourisme. Faut-il du coup l'interdire? C'est ce qu'on essaiera de comprendre donc ce soir, mais aussi tout de suite puisque c'est votre invité ce matin, Philippe Vandel.
C'est même ce qu'on essaiera de savoir. Un des drames du tourisme moderne, ce ne sont pas les 35 heures, je l'ai appris grâce à votre doc, c'est Instagram, les photos sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut la même photo prise au même endroit.
Oui, exactement. Il y a un chiffre qui a pas mal fait parler. Il y a 59% des 25-35 ans qui choisissent leur destination de vacances en fonction de leur potentiel Instagram. Instagram, c'est devenu la première agence touristique, ou en tout cas la première agence de pub pour le tourisme. Et donc, on se retrouve avec des scènes assez dingues. Tout le monde veut la même photo. Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde veut une photo où on a l'impression qu'ils sont seuls. Ouais. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On est par exemple à Angkor Wat au lever du matin, donc le temple absolument magnifique au Cambodge. On peut avoir l'impression qu'on est seul. En fait, on fait ce qu'on appelle un panneau à la caméra, donc c'est-à-dire on tourne la caméra et on se rend compte qu'en fait on est des milliers à s'être levé à 6h du matin pour faire exactement la même photo en essayant d'éviter au maximum d'avoir les têtes des autres.
Et alors il y a un type qui fait visiter un conservateur, un guide, qui visitait les temples d'Angkor et qui montre que tout le monde va aller au sommet. En fait, ils n'ont rien à faire de ce qui se passe là au sommet, c'est juste que du sommet, on peut voir sans avoir personne dans le dos, c'est juste pour faire la photo. Donc ils montent comme des imbéciles, ils font la queue, ils font la photo 30 secondes et ils redescendent. Mais ça donne lieu à des situations horribles. À Paris, 12e, pas très loin de chez moi, il y a une rue absolument magnifique, la rue Crémieux, qui est une toute petite ruelle. Et maintenant, c'est un enfer, parce qu'il y a des gens qui viennent faire des photos du matin au soir et les gens n'ont plus de tranquillité. La bonne solution, c'est des quotas, comme à Dubrovnik, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Où il y a seulement 4000 arrivées par jour, ou sur le Mont Blanc, 214 escalades par jour.
La solution des quotas, oui, elle est intéressante. Nous, on pose cette question qui est évidemment un petit peu provocatrice. Faut-il interdire le tourisme? C'est évidemment rhétorique. En revanche, nous, dans notre enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres solutions et qu'il y avait des moyens de réguler en fait le tourisme et qui peuvent permettre d'avoir un tourisme plus durable. En Thaïlande, par exemple, il y a une plage qui a été fermée, très connue, Maya Bay, la plage du film La Plage, justement, avec DiCaprio, victime de son succès. Les fonds océaniques ont été complètement foutus en l'air, donc on l'a fermé. Ailleurs, on est allé dans des îles qui s'appellent les îles Similan, et où là, pour éviter de reproduire un Maya Bay, ils ont instauré des quotas.
Ouais.
Mais même là, les spécialistes, il y a énormément de monde.
Même déjà là, c'est la baston.
On s'en amuse parce qu'un quota où il y a plus de 3000 personnes, effectivement, sur la plage, ça fait quand même pas mal de monde. Mais on fait confiance aux experts et au gouvernement qui expliquent que ça permet en fait de ne pas détruire les fonds marins. Donc des solutions existent et de toutes les manières, on va aller vers ça. On va aller vers plus de régulation et c'est aussi à nous, touristes, de peut-être mieux s'informer, de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller exactement à telle plage parce qu'elle est connue pour faire la même photo que tout le monde, parce que peut-être qu'à côté, il y en a d'autres qui sont tout aussi belles et où on fera un peu moins de mal.
Et vous, journaliste, aussi sur les temples d'Angkor, il y en a une dizaine que vous découvrez qui sont complètement déserts. Et je me suis dit, maintenant les gens qui voient le sujet de Martin Veil, ils vont aller dans le temple désert qui va donc de ce fait cesser d'être désert.
Oui, mais si ça peut désengorger les temples principaux, tant mieux. Encore, c'est incroyable, c'est gigantesque, c'est 4 fois la taille de Paris, avec des dizaines et des dizaines de temples. Le circuit classique, quand vous y passez juste une journée, on passe par 4 temples qui sont peut-être les plus grands, les plus beaux. 10 minutes à pied, vous avez des temples absolument magnifiques, on a l'impression d'être dans Tomb Raider ou Indiana Jones, et effectivement, vous êtes seul. Si on désengorge ces temples-là, et si les touristes font un tout petit peu l'effort de se dire qu'il y a d'autres temples magnifiques à côté, ce sera bien pour le site.
Et pardon de le dire, on a aussi l'impression d'être chez les connards. Il y a quand même des gens qui taguent les murs encore, qui gravent leur nom dans les murs. C'est juste complètement fou.
Ça, sur l'indécence des touristes, donc il y a ça, les gens qui effectivement gravent sur les temples leur nom ou un cœur. Il y en a aussi qui ont des comportements totalement inappropriés. On est notamment dans un temple en Thaïlande où deux touristes sont amusés à se prendre en photo fesses à l'air au milieu du temple bouddhiste. Donc oui, il y a des comportements de cons. Je suis d'accord avec vous.
Et il y a même à Bangkok, ils ont même installé des pancartes. Il n'est pas bon d'utiliser Bouddha comme décoration ou comme tatouage. Les gens n'en peuvent plus.
Exactement, les gens n'en peuvent plus. Après, sur ces panneaux-là, il y a certaines associations aussi qui sont très religieuses. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses. Ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur d'un temple sacré, il y a des règles. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, par exemple, de vous mettre cul nu en entrant dans une église?
Mais même nulle part. Voilà. Donc déjà, à peine chez moi. Déjà, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette vidéo en provenance des Maldives. Vous avez vu ou pas cette jeune femme touriste canadienne en bikini, forcée de se rhabiller par la police locale? Vous avez vu ça ou pas?
J'ai pas vu cette vidéo, non.
Ah bon, ouais, ça, parce que j'allais vous demander si les touristes allaient trop loin. Je reviens au fond de votre reportage. À Venise, il y a 28 millions de visiteurs chaque année, au point que le maire a demandé à ce que la ville soit classée sur la liste des monuments en péril. Vous-même, vous en pensez quoi? C'est une question rhétorique, mais est-ce que vous pensez qu'il faut interdire le tourisme?
Non, je pense pas qu'il faut interdire le tourisme, mais je pense qu'il faut que tous les acteurs du tourisme travaillent ensemble.
Voilà.
C'est aux touristes de s'informer, c'est au gouvernement aussi de légiférer et parfois de réguler, et c'est surtout aux agences de voyage, elles aussi, d'arrêter de proposer certains circuits touristiques, notamment en ce qui concerne les animaux.
Mais oui, mais je veux revenir à la question de la Thaïlande. Comment elles vont arrêter, vu que c'est ça leur gagne-pain?
Mais elles le font. De fait, le gouvernement thaïlandais en fait a pris beaucoup de mesures. Fermer Maya Bay, c'est énorme. Maya Bay, c'était une manne financière de dingue. Ils ont dit, ok, là, stop, on arrête. Ils ont instauré des quotas sur les îles Similan, sur les éléphants. Ils tentent aussi de légiférer. Donc, avec cette idée qui est simple, c'est que les personnes qui profitent du tourisme, si on fait n'importe quoi et qu'on fout en l'air tous les sites, de toutes les manières, dans 10 ans, elles n'ont plus de boulot.
Merci beaucoup Martin Veil. Je rappelle, grand reportage ce soir sur TMC à 21h15. Faut-il interdire le tourisme? Il ne faut pas interdire ce reportage.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, Philippe. Mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur, votre rendez-vous d'humour avec le duo Stéphane Degrotte et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane Degrotte.
Toi, tu dis Degrotte.
Une vraie question. En France, on dit Degrotte.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Rien.
Bonjour, Gilles. Je suis heureux de vous souhaiter une bonne journée.
Bonjour, Stéphane.
Nous sommes le mardi 11 février. Whitney Houston, elle est morte. Elle avait 48 ans, vous vous rendez compte?
Une chanteuse?
Bah oui, c'est pas une station spatiale, Whitney Houston.
Moi, je vais pas en faire des kilos, hein. Je vous préviens tout de suite.
Avec Houston, on a un problème. On va passer à René Descartes.
Enfin, Descartes.
Oui, mais il s'appelle René.
Il y a des noms qu'on connaît par le nom et dès qu'on met le prénom, on est déstabilisé.
Par exemple, La Palice.
Jean
La Palice,
oui.
Pas mal.
Foucault.
Michel.
Non.
Quoi?
Celui du pendule.
Vous connaissez le pendule de Foucault?
Non,
c'est une blague, Gilles.
Le pendule de Foucault.
Pas le pendule, le pendule.
C'est Jean-Pierre Foucault, le pendule de Foucault?
Léon Foucault.
Vous avez l'air ahuri. Hein. C'est vos questions qui sont ahurissantes.
C'est lui qui a déterminé la vitesse de la lumière. Vous avez déjà été au Panthéon?
Il y a longtemps.
Vous n'avez pas vu un pendule?
Au Panthéon?
Je vous reconnais pas. Vous êtes tellement riche de tout que vous êtes pauvre de rien.
Pauvre de rien, c'est joli.
Oui, mais de rien, de rien.
Mais pauvre de rien, ça veut dire que je suis riche de tout.
Vous voyez ça comme vous voulez, hein.
Mais je vois midi à ma porte.
Oui, ben, vous êtes en retard. On va passer juste une seconde Descartes. Vous avez cette pensée?
Je suis assez cartésien.
Sa grande phrase, c'est quoi?
C'est quoi la grande phrase de Descartes?
Je pense, donc je suis.
Ah oui.
Vous, si vous pouviez penser davantage, vous seriez davantage. Vous n'avez pas envie de développer?
J'ai pas envie de développer. Parce que je pense, donc je suis. Tout le monde peut s'y reconnaître là-dedans.
Sauf les animaux, puisqu'ils ne pensent pas. Il est mort à 53 ans. Je pense, donc je meurs. Paul Bocuse, il est né en ce jour.
J'ai déjà dîné chez lui.
Mais vous avez mangé quoi?
Ah, je sais plus.
Ça, c'est intéressant, ça. Donc, vous allez chez Bocuse? Vous ne savez même pas ce que vous avez mangé.
Je me souviens de l'ambiance.
Vous l'avez vu, Bocuse?
Je sais plus.
Ah, vous ne savez plus non plus.
Mais je me souviens du. Comment on appelle ça?
La table, l'assiette, la fourchette, le couteau.
Le type qui vient proposer le vin.
Le sommelier.
Le sommelier qui a parlé du vin pendant un quart d'heure.
C'est pas un peu long de parler de vin pendant un quart d'heure?
C'était un délice.
C'était quoi le vin?
Ah, j'ai oublié.
Vous avez tout oublié. Ce que vous avez bu, ce que vous avez mangé. Si vous avez vu Bocuse, il était polygame.
Et il s'était marié plusieurs fois.
Polygame, je viens de vous dire polygame.
Mais il avait plusieurs femmes?
Je viens de vous le dire pour la sixième fois. Et on dit pas polydame, on dit polygame.
Il s'était marié plusieurs femmes.
On n'est pas polygame si on a quatre labrador. Mais il vivait avec trois femmes.
Il vivait avec trois femmes?
Et oui, puis il était polygame.
Sa mère.
Ça dérape complètement, ça. Il est mort à 91 ans. Sa mère devait avoir 216 ans. Sa mère était plus âgée que lui, vous savez ça. C'est le principe de la mère. Hein. Moi, j'aurais bien voulu dîner avec vous chez Bocuse.
Si on y va à 360 000 km/s,
ben on aura déjà terminé le repas avant même d'avoir commencé. À demain, Gilles, pour un mercredi.
À demain, Stéphane.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane Degrotte et Gilles Gaston-Dreyfus. Feuilleton quotidien à retrouver dès demain, 9h55, et en podcast aussi sur europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Frédéric Bell. Elle va venir nous parler de sa riche actualité. C'est comme ça qu'on dit au programme. Un film à l'affiche du COBU, un autre en préparation et une série H24. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, Clément Lessa va nous parler de Sonic, le célèbre hérisson bleu. Ah non, il est déjà passé, il va trop vite. Et puis Louise Bernard va nous emmener à Los Angeles voir Britney Spears. J'aurais jamais cru qu'une vanne comme ça nous fasse marrer.
On va couper la vanne plus tard.